Phil, tu m'entends?
Oui.
Okay, bon, on va commencer du coup, parce qu'il se fait tard déjà.
Mais en tout cas, le titre est bien choisi. C'est toi qui as choisi?
Bah oui.
Ça nous correspond bien?
Bah je sais, c'était fait
Ouais,
exprès.
c'est bien trouvé. Ça se voit que c'est ton métier, t'es fort.
Bah écoute, on a des diplômes pour, hein.
Pas vraiment, mais pourquoi pas?
Comment tu vas, Finn?
Bah, très bien, ravi, fantastique. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est une soirée de bipolaire. Je pense que
Bah...
c'est le mot
Alors,
qui
attends.
correspond le plus. Et
Écoute.
toi, comment vas-tu?
Ça va, écoute. Pareil que... Enfin, pareil, un peu moins triste que vous, forcément, je suis pas supporter, mais dégoûté, quoi.
Ouais. Oui,
D'écouter pour
logique.
lundi, c'est... Mais bon, on va parler de tout ça, parce que, bah, du coup, bah, tout se jouera de leur dernière journée pour mon club, le PSG. Donc, ça veut... tout se jouera de dernière journée pour Benfica, même si ça semble mal parti. Tout se jouera de dernière journée pour Porto et pour Braga. Donc, soit on passe un excellent moment, soit c'est la catastrophe. Donc, on verra dans 15 jours, mais en tout cas, on va débriefer tout ça. On a déjà pas mal de commentaires. Donc, ouais, on n'a pas pu faire de live. Du coup, on a eu un petit problème technique. Donc, on fait un petit space. Mais on essaiera quand même de faire une bonne soirée. Donc, on a deux commentaires. On pue la merde. Notre championnat est bien parti pour finir derrière la Belgique. Ouais, bah Phil, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Donc voilà, comme tu as dit, une soirée un peu bipolaire où tu fais la première mi-temps qu'il faut. Et la deuxième période où tu fais tout ce qu'il ne faut pas faire et une seconde période qui résume un peu la mentalité de ton club et cette fragilité mentale qui correspond totalement à l'ADN de ce club, malheureusement, où il y a cette peur de gagner. On ne sait pas pourquoi. Si tu peux m'expliquer pourquoi, comment. Enfin, j'ai l'impression qu'on se répète un peu, mais j'avoue, j'ai du mal à comprendre quand même comment c'est possible d'être aussi serein à la mi-temps, d'être aussi compétent lors des 45 premières périodes et ensuite de s'écrouler dès qu'il y a un but qui est encaissé alors qu'il n'y a pas besoin de s'affoler. Alors, bon, t'as le clubisme habituel du Portugal qui nous explique que c'est la faute de l'arbitre. Hein. Donc, c'est l'arbitre qui a marqué les 3 buts, c'est l'arbitre qui a fait que Benfica a un seul point en Ligue des Champions. Je vais bien admettre que l'arbitre n'a pas été bon. Mais remettre tout sur la faute de l'arbitrage, c'est aussi une maladie au Portugal. Pour expliquer aussi ce qu'il y a de plus mauvais, c'est-à-dire les joueurs aussi l'entraîneur. Donc, Phil, je te laisse parler un peu de ce match-là pour résumer un peu tout ça et expliquer aussi un peu ton sentiment. Et Dani, ensuite, tu compléteras. J'ai vu qu'il souhaite parler, donc il était au stade, donc ça pourra être aussi compléter un peu tout ce qu'on a vu cette soirée.
Non, bah, de toute façon, nous, on n'a pas pour habitude de parler d'arbitrage. En vrai, on va pas en parler parce que.
Si, on peut en parler, mais remettre tout sur l'arbitrage, je trouve encore une
Non,
fois que c'est une
mais.
mentalité
Non,
si
mais.
petite que ça me fait rire, quoi.
Le seul truc que tu peux truc, c'est par rapport à la faute de Jean-Lève avant le pénalty. Même si, vas-y, le pénalty, il y a vas-y, 50-50, parce qu'au final, il y a contact. Donc, certaines fois, ça peut être sifflé, d'autres fois, c'est pas
C'est ça, c'est
assez.
pas c'est la faute en fait sur Jean Neves
Mais
qui doit
c'est la
siffler
faute sur
derrière.
Jean Neves où le gars revient pas à la VAR. Ça pose problème. Le carton rouge est mérité. Ça
Ah non, on m'a dit que
d'Ali.
c'était jaune, moi. Il y a pas rouge. Hein.
Ouais,
Il a failli
enfin,
péter la cheville, mais tranquille.
on n'est pas loin de, hein, de, ouais, de lui péter la cheville à Barella. Donc non, carton rouge, normal. Après, enfin, je comprends pas pourquoi. Il y a un arbitre letton. Ils ont football en Lettonie. Match de Ligue des Champions, mais après, dans le sens du enfin, la frappe de Tengsten ou Rafa, quand il y a une contre-attaque là, 2 contre 1, et Rafa il lui donne un ballon casse-pipe,
Ouais, c'est de la faute d'arbitre, ça aussi, je pense.
elle est contre, non, mais elle est contrée, il donne 6 mètres.
Oui, ça aussi, ouais. Ça,
Bon,
c'était assez. Non, l'arbitre a été très mauvais. L'arbitre a été vraiment très mauvais, ça.
a été mauvais,
Il n'y a
mais
pas à
c'est pas pire
dire.
que Félix Bridge qui nous a déjà bien. Hein, donc voilà, c'est pas par là qu'on fait ça. Maintenant, le caca culotte s'explique par, je pense, c'est ma vision des choses, mais c'est pas forcément la vérité. Hein. Mais bah, le fait que dans le foot, sur ces dernières années, on a vu beaucoup de remontadas. Encore aujourd'hui, on a vu un Galatasaray au Manchester où il y a eu beaucoup de buts et de changements de scénario. Dans cette Ligue des Champions, on a déjà eu pareil des équipes qui gagnaient par 2-3 buts d'écart, au final ils se font remonter dans le même match. Donc ça s'explique par ça, et parce que les gens gardent en tête le match contre Beşiktaş, où tu gagnes 3-0 là-bas et tu fais 3-3. Ils gardent le match contre la Juve de l'année dernière, où tu te fais vraiment peur alors que tu maîtrises le match. Et du coup, bah forcément, je pense que les joueurs, les supporters, ils gardent ça en tête. Moi, à la mi-temps, je fanfaronne pas. Parce que j'aurais bien voulu envoyer sur tous mes groupes WhatsApp et tout en mode tiens, on va enfin prendre 3 points. Bah non, parce que je connais mon club, parce que je sais très bien comment ça se passe, qu'à partir du moment où ils font 3-1 sur un but, mais complètement anodin au final, parce que c'est un
Mais
vieux
comment
truc
c'est
de.
enfin, c'est comment c'est dans
Mais parce que
l'ADN en
je.
fait,
Mais ça se
c'est dans l'ADN.
ressent.
Non, mais
Parce
c'est
que
dans
les.
l'ADN.
À
Si tu vois,
partir du
s'il y a
moment où il
des
y a
clubs comme
3-1,
ça.
les gens, ils ont peur.
Mais comment t'expliques ça?
Et.
Comment c'est
Mais
possible en fait? C'est dans
parce que.
l'ADN, c'est quoi? C'est comme Paris, c'est comme Arsenal, c'est de la
Ouais,
peur de gagner, c'est.
mais c'est ça. Enfin, je sais pas si je pense pas que ce soit peur de gagner, mais c'est juste que tu l'as déjà vécu le truc. Donc tu te dis
Justement.
forcément que c'est possible.
Je dirais quand je peux prendre la
Chose
parole.
Vas-y, 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 t'inquiète.
Chose que tu as vu dans
Ah
le
oui, c'est
Nord,
clair.
ça ne serait pas arrivé. Ce serait
Ouais.
pas arrivé parce que les leaders, encore une fois, ils portent leur bijou de famille, chose qui n'arrive pas chez nous. Chez nous, bah, les leaders, ils disparaissent. Parce que, après, on va en parler plus en détail, mais c'est bien mignon. Il met triplé aujourd'hui, Jean-Mario, mais dans le contenu, dans le match, qu'est-ce qu'il y a? Rafa, aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Di Maria, pareil. Au final, tu gagnes 3-0 à la mi-temps parce que Tengsten et Florentino font une première mi-temps d'un autre niveau. Parce que sinon, dans le contenu, dans le jeu, et aussi parce que Inzaghi t'envoie une équipe D, même si dans l'équipe D, il y a quand même des gars comme Alexis Sanchez, Arnautovic, Fratesi. Bon. Mais ça s'explique par ce genre de truc. Et au final, tout le monde, à 3-1, quand ils font 3-1, tout le monde sait déjà que ça sent mauvais. Et alors le 3-2 qui vient pareil, un peu de nulle part, tu te dis bon. Tu sais déjà comment ça va finir. Soit ça finit 3-3 dans le meilleur des cas, soit on perd 3-4. Et on n'est pas loin parce que la frappe sur le poteau. Donc
Ben
voilà, c'est vraiment. Daddy va me compléter. C'est vraiment un match à Benfica. Genre, gagner 3-0 à la mi-temps,
oui. C'est une
ils font rien du tout. Et c'est même pas en plus. Genre,
l'équipe
il fait.
B, c'est l'équipe B en plus, c'est une
Non, mais
dinguerie.
c'est pas, il fait 5 changements à la mi-temps, il fait rentrer Lautaro,
Ouais.
Thuram, tout ça, ils reviennent. C'est vraiment, genre avec ses seconds couteaux, ils reviennent à 3-2. ton équipe, elle joue plus du tout. Bah déjà qu'elle jouait pas non plus de ouf, parce que ça n'a rien à voir avec le match de la Juve l'année dernière, où là, pour le coup, on domine de bout en bout et on joue vraiment très bien. Là, ils se liquéfient tous, ils se font caca dessus, et à partir du moment où ils font plus les efforts, donc les mecs sur les côtés, notamment Jean-Mario et Di Maria, bah, avant l'expulsion, c'était compliqué parce que tu es déjà en infériorité numérique, mais après l'expulsion, c'est pire.
Ouais. Je
Donc
vois.
voilà.
Tani, si t'as quelque chose à compléter?
Ben, c'est même pas complété. On pourrait faire une conférence sur le sujet avec Philippe, je pense. Déjà, est-ce que vous
Ouais,
m'entendez bien?
nickel.
Non, concernant le point de est-ce que du coup c'est dans l'ADN, pourquoi cette crainte, etc. Je dirais que déjà, c'est peut-être par rapport à. Déjà, par rapport aux récentes années où on arrive à se trouer quand, dans des moments improbables, et j'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire que je pense que avant même le premier but, quand on voit comment on rentre dans la seconde mi-temps, on se dit, il y a moyen, on vit un moment historique. Et quand on a le coup franc d'Alexis Sanchez, on se dit, on va vivre le moment historique. Puis quand on se prend le but hors jeu, on se dit, ouais, c'est bon, là, on va le vivre. Au 3-1, on sait tous qu'on ne gagne pas le match. Enfin. Je pense que Philippe, tu as eu le même ressenti que moi. On savait très bien qu'on allait réussir à se chier dessus. Et en fait, c'est comme si, seconde période, en fait, tu as l'équipe qui est restée au vestiaire. Et en fait, même, elle te transmet aucune énergie. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, elle te transmet une énergie où tu te dis, bon, bah, on va faire un gros match. Parce que tu le sens, Benfica, quand on est dedans. Le match contre le Sporting, par exemple, où on perd 1-0 à la mi-temps, tu sens quand même qu'on est dedans. On passe pas à côté de notre sujet. Mais quand nous, on passe à côté de notre sujet, on fait pas à moitié. C'est-à-dire qu'on donne entrée, plat, dessert, on fait régaler tout le monde. Et même s'il y a, il pouvait même, ce soir, il pouvait même avoir Zanetti qui est rentré sur le terrain, il mettait un but. Hein. Il faut avoir toute la clique, Jules César, tout le monde. Jules César, carrément, je suis dépassé, j'ai oublié son prénom, pourtant il a joué chez nous. Mais il pouvait même mettre toute la clique et on allait réussir à régaler tout le monde. Et le fait est, c'est que dès qu'ils mettent leur premier but, bah, après, on a peur, on ne presse plus, on est inquiet. Et je pense que ça réveille des démons en parlant de cette édition où tu sais qu'à la Sociedad, tu sors d'un match mais clownesque. Et après, l'Inter prend confiance, ça met plus d'intensité aussi. Il suffit juste de l'entrée de Marcus Thuram aussi pour son premier ballon, réussir à provoquer un pénalty. Après, voilà, il y a eu le point, tu parlais voilà, de l'arbitrage, il ne faut pas te remettre dessus. Moi, après, j'ai pas ouvert Twitter, donc j'ai tweeté, mais j'ai pas regardé les tweets des gens. Je te dirais qu'au stade, bah, on s'est senti quand même niqué. Mais que c'était le
Mais
second
voilà,
point. C'est-à-dire que le premier point,
c'est ce que je
c'est
dis. C'est, c'est,
comment
c'est,
t'arrives à prendre
c'est,
3
là, il n'a pas été bon, ça c'est clair, mais c'est
Alors,
pas lui que tu dois pointer du doigt, quoi, c'est ça.
Ah non. Non, non, non. Mais en fait, c'est pas. En live, tu es obligé de gueuler. Tu vois. C'est-à-dire que même les joueurs étaient sur les nerfs. Morato prend un jeune pour ça. En fait, c'est que des petits trucs un peu débiles. C'est même pas forcément que le penalty ou le rouge. Là où moi, par exemple, le rouge, pour moi, quand je le vois en direct, avant même parce qu'il ne siffle pas faute. Je me dis, waouh, Antonio Silva, il fait un tac qui n'est pas nécessaire et je pense qu'il est moche. Et au final, bon, il se prend le rouge. Mais c'est des corners pas sifflés, c'est des contacts qu'on va pas siffler là, qu'on va mettre là-bas. En fait, c'est un peu l'arbitrage à deux vitesses sur un petit, un grand. Mais c'est peut-être un truc que nous, on peut ressentir aussi au Portugal avec nous qui sommes grands et quand on reçoit un autre. Donc, sur ça, il y a débat, mais ce n'est pas le problème principal, quoi. Le problème principal, c'est qu'on va devoir aller à Salzbourg avec une calculette alors que. On aurait pu gagner ce match tranquillement et juste régler le sujet en Autriche. Et je pense pas qu'on le
Faut gagner
fera.
deux buts d'écart, c'est ça, pour se qualifier.
C'est ça.
Ouais.
C'est l'idée. C'est l'idée. Donc, il faudra faire un match à Benfica, encore une fois.
Bah.
On se pense qu'on sera capable de gagner 2-0 et prendre un but à la dernière.
Ouais.
Quoi. Une bonne prestation à Benfica.
Et sinon, bah, sinon sur l'ensemble du match. Que ce qu'on peut dire à part que bah, finalement ouais, c'est une équipe assez bipolaire où tu as une première mi-temps qui est très compétente avec ce milieu de terrain Florentino et João Neves qui gratte des ballons, qui font jouer leur équipier, t'as Morato aussi qui permet d'avoir un certain équilibre et de prévenir un peu la transition défensive, t'as Danois qui fait son meilleur match sous les couleurs du SLB avec notamment l'attaque de la profondeur, des ballons bien conservés de haut but. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, un peu de cette première période? Dany, vas-y, parce que je crois que Dany, Philippe, il est parti.
Bah moi j'en ai pensé que Franchement, je pense que c'est une des, entre guillemets, bon, sur la Ligue des Champions, tu me diras, c'est compliqué de faire moins bien. On a fait, je pense, une des meilleures, enfin, la meilleure mi-temps qu'on a fait en Ligue des Champions. Sur les mouvements, je dirais qu'on avait, que ce soit dans le pressing, l'intensité, les choix, les mouvements, surtout de Tencent, où moi j'ai trouvé que vraiment il apportait quelque chose qu'on n'avait plus trop pour Ramos. Et tu sens que ça, ouais, ça aide beaucoup. Là où tu avais par exemple un Moussa, moi je trouve que Moussa, par exemple, on a déjà eu ces discussions, apporte, mais ne peut pas apporter peut-être ce que veut Schmidt, et je trouvais que Casper le faisait bien. Et ça a permis, bah voilà, sur des actions où, bon, Jean-Marie met son triplé, il met pas trois buts fabuleux, mais en fait, il faut les mettre. Et ces actions-là, il faut les construire. Et la manière dont on l'a fait, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Et même, je trouvais le double pivot au milieu, enfin, avec Neves et Tino, très, très intéressant. Et je dirais même que l'équipe que peut apporter un Morato, la disponibilité que peut avoir un Arsenal, c'est très intéressante. Le seul bémol que je mets, par contre, c'est
Offensivement.
sur cette première mi-temps. Et ouais, mais c'est surtout Di
Ouais, tu
Maria,
mets
c'est-à-dire qu'on est. On est très orphelin du côté droit, c'est-à-dire que dans le pressing, bah, Casper il va presser pour deux, et c'est très important quand des fois il faut remonter le bloc ou alors revenir à harceler la première relance, surtout qu'avec l'Inter, cette relance à trois, si tu en as un qui presse pas, bah, ça devient vite compliqué. Et c'est ce qui nous a peut-être coûté certaines occasions et peut-être des fois un peu de nonchalance parce que bah, des fois le monsieur décide d'être nonchalant. Donc, certes, il est champion du monde, mais c'est pas vraiment le club pour faire ça. Ouais, c'est un peu mon
Phil,
opinion.
toi, qu'est-ce que tu as pensé un peu, bah, justement, un peu aussi cet apport de Morato qui, bah, j'aime beaucoup, en tout cas, bah, son apport défensif, ce qui est normal, c'est un défenseur central de formation. Mais le fait aussi bah, qu'il monte peu, bah, forcément, encore une fois, c'est un défenseur, donc on ne risque pas de le voir au poteau de corner adverse faire des débordements et centrer. Mais du coup, c'est vrai que ça te permet d'avoir cet équilibre au niveau bah, pour les transitions défensives, etc. Mais est-ce que aussi ça ne te limite pas enfin, offensivement ou. Bon, au final, t'as Morato qui t'apporte peu, João Mario, même s'il marque un triplé aujourd'hui, qui reste historique, c'est pas un joueur non plus qui va t'apporter énormément au niveau de la percussion et le fait de briser des lignes offensives adverses. Di Maria qui, quand même, bah, après un bon début de saison, quand même, là, ça fait quand même 2-3 mois qu'il est en difficulté. Offensivement, t'es quand même très très limité et heureusement qu'aujourd'hui t'as Tanguy, je peux pas le dire, qui est quand même assez performant et qui t'apporte quand même certaines choses parce que sinon offensivement tu es quand même très limité.
Ah, mais c'est horrible. C'est horrible. Alors, bah, je suis d'accord sur Morato. Alors, oui, il va pas t'apporter offensivement comme pourrait t'apporter un vrai latéral, voire piston gauche. Encore que on a vu aujourd'hui sur le deuxième but de l'Inter que c'est Acerbi qui va centrer et pourtant, quand même, pas loin du poteau de corner pour le but de Fratesi. Donc, comme quoi un central peut, et c'est pas Bastoni, hein, c'est bien Acerbi, comme quoi un central peut apporter quand même, tu vois, sur cette zone du terrain. Après, lui, ce qui est bien, c'est qu'il va pas s'inventer de vie. Jurasek, parfois, il a tendance à vouloir. Moi, je pense pas que ce soit complètement une saucisse, hein, Jurasek. Je pense qu'il a besoin de s'adapter et que ça va prendre du temps, si on lui laisse le temps. Mais c'est juste que pour l'instant, voilà, on n'a pas le temps, tout simplement.
Le temps n'a pas le temps d'avoir le temps pour le temps.
Exactement, merci beaucoup, comme l'a dit un grand philosophe. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, la solution la plus viable, c'est Morato, parce que derrière, il t'apporte défensivement. Donc, il va t'apporter cet équilibre, quitte à ne pas apporter offensivement. Mais au moins, il ne va pas t'inventer de trucs. Il va jouer
Et puis
simple,
aussi,
il va jouer court.
ça permet de te rassurer parce que c'est vrai que Benfica est dans une mauvaise passe, même s'ils sont premiers du championnat. T'es quand
Bah
même
oui.
sur une première partie de saison qui est compliquée. Ça permet aussi de te rassurer défensivement. Et on sait que bah, c'est la base d'une équipe en fait. Si tu es équilibré défensivement, si tu es sérieux défensivement, c'est ce qui est peut-être le plus dur à construire au début. Donc
Et
ça
mine de
permet aussi
rien,
de.
c'est celui qui t'apporte le plus de garanties aujourd'hui à ce poste. Après, encore une fois, on le répète à chaque space, à chaque live, le vrai problème, c'est le trio derrière l'attaquant. Rafa est fantomatique depuis 2 mois, alors que c'est censé être le gars qui dynamite encore aujourd'hui. Je vais reprendre Thierry Henry, mais tu sais pas faire un 2 contre 1. T'es professionnel, tu sais pas faire un 2 contre 1.
L'action avec
Mais c'est une
Casper,
dinguerie.
quand il remonte le
Mais
ballon, on sait tous, il va rien se passer.
comment
Il
c'est
va
possible de
rien se passer.
s'écarter autant? Mais va fixer. En plus, tu vas vite. Bissek qui recule, tu fixes, tu dribbles, tu fais une passe en retrait et le match il se termine là. Non, il s'écarte, ça veut dire que Bissek, bah, derrière, il joue pas. enfin il va
Ah, et puis
partir dans la frappe
la
parce qu'il
passe est horrible.
s'écarte et la passe elle est pas bonne.
La passe est
Derrière,
horrible.
bon, le contrôle il est compliqué parce que il est derrière, le ballon il est derrière
Non,
lui.
mais. Tout à l'heure, tu nommais Thierry Henry et il t'explique justement qu'il a assumé voir des joueurs ne pas savoir jouer un 2 contre 1. Et là,
En
cette
professionnel.
situation m'a fait penser à lui, quoi.
Ben ouais, clairement.
C'est pas possible, quoi, d'un joueur qui est international portugais, quand même, qui ne sait pas jouer un 2 contre 1, quoi.
C'est intéressant ce que vous dites parce que du coup vous irez voir Vertonghen et vous lui demanderez, vous lui direz voilà pourquoi Rafa n'a jamais joué en première
Bah
ligue.
ouais.
C'est une des raisons parmi tant d'autres où le mec décide juste de jouer 2-3 mois dans l'année, puis dès que arrive la saison des pluies, etc., il faut aller se réfugier dans le chauffage d'un brunch. Et après, non, mais c'est affligeant. Aujourd'hui, je crois que c'est la première fois de ma vie en 25 ans que je l'ai vu s'énerver sur le terrain, sur une décision, parce qu'il y avait un corner. Mais mon coco est plus de réaction et plus d'attitude, c'est pas normal
Bah
de passer à
c'est sur cette
3
action-là en
quarts de
plus. Hein.
ses matchs, sérieux. Hein?
C'est sur cette action-là en plus hein, qui s'énerve.
Oui, c'est celle-ci ou c'est celle où il tire et elle est. Tu crois que c'est pas celle-ci. Celle où il s'énerve, c'est quand il tire, qu'elle est
Ah oui.
contrée et que l'arbitre ne donne pas
Oui,
de corner.
exact,
Et
exact.
c'est là où le mec devient fou. Et je m'attendais à ce qu'il regarde ses lacets, mais il s'est énervé. Donc écoute, impressionnant. C'était un moment où il s'énervait à
Ces
fond.
trois-là, c'est censé être tes leaders sur le terrain, tes leaders de vestiaire avec Otamendi, et au final, rien du tout. C'est le gros problème actuellement, c'est-à-dire qu'ils n'apportent pas assez, et le problème, c'est de les garder aussi longtemps. Di Maria, il sort à la 77, Jean-Mario, il sort à la 80 et quelques, Thiago Veiga, il sera rentré pour 30 secondes. À un moment,
Ouais. Ah non,
faut.
mais ça, faut m'expliquer aussi. Ça, faut m'expliquer
Faut
comment c'est
arrêter de se
possible.
moquer.
Mais 30 secondes, t'es gentil. 10 secondes, il fait un double changement, pourquoi faire, honnêtement?
Non, mais on a parlé de Conceição hier, mais là c'est pire. C'est pire, les changements, ils sont mauvais, ils sont tardifs.
En vrai, c'est pas compliqué. Pour moi, il y a juste une histoire de statut.
Non, mais 10 secondes.
Une histoire
Comment
de
tu fais
statut.
rentrer? Il ne fallait pas
Non, mais
rentrer?
je pense juste qu'il veut cramer un peu de
Ouais.
temps parce qu'il veut tenir le nul, à la rigueur. Mais derrière, il y a des mecs qui ne jouent pas parce qu'on ne peut pas les sortir. On ne peut pas sortir Otamendi du 11. Mais pour qu'il sorte, il faut qu'il se chie littéralement dessus. Mais je pense vraiment au sens littéral, je pense vraiment qu'il faut vraiment qu'il chie sur le terrain. Vraiment. Et après, Di Maria, bah, pareil, il pourra sortir que s'il se blesse. C'est tout. Donc c'est compliqué parce que autant bah, il t'amène, enfin, les deux Argentins t'amènent quand même un peu de leadership, plus Otamendi que Di Maria, je trouve. Mais autant il y a des mecs comme Gouveia qui se craquent et qui pour moi, enfin je sais pas comment expliquer, mais ils ont tellement fait preuve, il fait tellement preuve de patience, c'est pas n'importe quel joueur qui refuse d'être prêté, qui se contente des peu
Une
de minutes qu'il
dinguerie.
a, alors que je pense qu'il a vu une autre évolution et. Et on serait là à pleurer parce que le mec ne performe pas. Donc j'espère, nous, de notre côté, en tant que supporter, on aura la bienveillance de ne pas lui tomber dessus parce que ça ne fonctionne pas. Parce que non, désolé, le mec prend 6 mois de sa carrière et c'est quand même beaucoup, 6 mois, pour essayer de tenter un truc avec son club de cœur. Le mec vit les rencontres, mais comme un fou sur le banc quand il s'échauffe, c'est peut-être le premier à venir toujours râler. Donc peut-être qu'il va se manger un jeune à cause de ça à un moment donné. Mais c'est super d'avoir un mec qui le vit autant. Maintenant, on aimerait bien qu'il le vive sur le
Et puis
terrain. C'est ça
c'est
le
pas le
problème.
genre de mec qui sort d'un an de prêt où il a rien fait, où il est en train de stagner, où bon c'est pas grave, tu le laisses un peu sur le banc.
Le
Le
mec,
mec
il
fait quand même une
a.
saison plutôt correcte, il est sur une bonne lancée, il est sur 2-3 ans de progression, parce que encore une fois, il y a 2-3 ans, Gouveia, c'est pas le même joueur, personne n'aurait misé dessus, je pense. Il est quand même sur une progression assez exceptionnelle, et au final tu lui coupes cette progression pour aucune raison, quoi. Enfin, c'est une gestion qui est catastrophique de sa part.
Et puis surtout, il joue à un poste où on a besoin.
Ouais.
Tu vois, c'est pas comme si le gars était au milieu et que c'était bouché parce que t'as deux joueurs qui sont trop forts en ce moment et t'as Kökçü qui, par son statut, va forcément jouer plus tard. Donc, il joue à un poste où vraiment bah, on a besoin. Parce que pour faire ce que fait João Mario, alors encore aujourd'hui, le triplé, ça, enfin, on a des yeux, on a vu le match, ça va rien changer. C'est trop peu. C'est trop peu dans le repli défensif, c'est trop peu dans l'apport même offensif. Et Di Maria, c'est pareil. Di Maria, de par son statut, il sort tard, parfois il traverse. Enfin, Tungsten, il s'appelle Casper, mais c'est pas lui le plus fantomatique de l'équipe. Hein.
Ouais.
Là, on adore ce genre de vanne. On adore.
Je m'attendais à ce que tu réagisses.
Vas-y, 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 vas-y.
Non, mais.
Ouais, mais moi, juste sur ce que tu dis sur la dernière phase, je suis totalement d'accord. Et tu vois, même sur la rencontre, tu as l'impression que c'est Casper qui a mangé plus de 100, une centaine de matchs en Ligue des Champions et pas Di Maria, tu vois. Enfin, j'abuse quand je dis ça, hein, je sais pas combien il a de rencontres, mais je veux dire, c'est quand même un mec qui a un palmarès dans cette compétition. Et le fait que tu sentes que le mec. Bon, après, honnêtement, hein, des matchs qu'il a pondus, c'est pas l'un des pires. Hein. Parce que, mais c'est juste un match où pour moi il s'est pas plus efforcé que ça, il a pas plus apporté que ça, et en fait c'est là où ça m'embête, c'est qu'il faut arrêter de lui donner le titre de ouais mais regardez contre Porto il nous sauve, ouais il peut te faire ce but, il peut te mettre cette passe qui va te changer la rencontre, ouais mais non en fait, tu peux pas boycotter des mecs qui derrière sur le banc, et honnêtement j'ai même pas l'impression qu'il le vit comme un boycott parce que j'ai l'impression que Schmidt arrive à tenir un minimum son groupe, donc je sais pas, par exemple je pense qu'un Sheldrup s'il était resté aurait eu beaucoup plus de temps de jeu, comme Casper en train de le vivre. Parce que honnêtement, je ne m'attendais pas à voir Casper être à l'ennemi titulaire contre l'Inter ou débuter un match de championnat. Donc, ouais. Je me dis que, en même temps, Smith, il arrive à être très incohérent, mais en même temps, il arrive quand même aussi à donner une chance à un joueur à un moment donné, sauf quand il faut malheureusement mettre un de ses leaders, un de ses grosses têtes du vestiaire sur le banc.
Les gars, ensuite, voilà, bon, enfin, je sais pas si on, comment dire, si on a déjà fait un peu ou pas, mais quels sont vos tops et vos flops?
Bah, écoute, top, ouais, c'est pareil, il y a deux matchs dans un match.
Le problème, c'est que la fin, t'as le résultat qui est mauvais, quoi, donc c'est forcément le négatif qui prend le dessus, quoi.
Top, ça va être forcément Casper parce que sa première mi-temps. Alors, j'avais déjà beaucoup aimé son match face à Famalicão samedi en coupe. Dans les déplacements, dans tout ce qu'il avait fait, il manquait juste de justesse dans le dernier geste, que ce soit la passe ou la frappe, tu sentais qu'il se mettait un peu la pression et qu'il avait du mal à bien décider les actions. Aujourd'hui, il a été beaucoup plus assertif. Donc lui, pour sa première mi-temps et pour le travail défensif qu'il a bas pour compenser ce que ne font pas ses comparses. Et Florentino qui a fait une très bonne première mi-temps aussi. J'ai trouvé qu'il était partout, même avec ballon, qui n'est pas sa qualité principale. J'ai trouvé très bon aussi. Et flop, ça va être. En vrai, pour moi, c'est les trois derrière la tête. Mais vas-y, Jean-Marie, il met triplé. Mais Rafa, sûr. Di Maria, pareil. Et Otamendi, parce qu'à ton âge, tu peux pas faire des fautes aussi stupides.
Dani?
Moi, en top. Par contre, il y a un écho. C'est que moi, mais j'entends un écho. Moi, en top, je mettrais. Comme ça, sur la rencontre de ce que j'ai vu, je dirais Jean Neves. Parce que j'ai encore trouvé qu'il avait été hyper complet, que malgré son jeune âge, c'est un des mecs qui montre le plus de personnalité.
Ah ouais, c'est le seul qui montre du caractère en fait après.
Ouais. Qui met l'intensité, ouais. Même au bout de 80 minutes de jeu, qui remonte des ballons, qui
sort le festival qui fait un moment exceptionnel.
Et il y a une passe, je sais pas si tu l'as en seconde période, s'il la met un peu à la Thiago Alcantara, une demi-volée un peu flottante.
Elle part ouais,
elle est contrée. Si elle n'est pas contrée, il te met. Après, fait derrière Casper, il met une balle dans ma tête. Hein. Mais je veux dire sur l'action, enfin, techniquement, c'est un régal et ça serait bien si on en avait un peu plus.
Mais même bon. Comment il arrive à sortir des petits espaces et il joue. Et à un moment, et avec Maria, ils font des passes double contact.
Ce qui me fait peur, c'est un grand mot, mais. C'est qu'en fait, je trouve qu'il prend de plus en plus de confiance dans son jeu. Et encore une fois, au Sporting, on avait remarqué que c'était son meilleur match pour moi avec ballon. Et là, je trouve qu'il est en train de passer encore un cap où vraiment on est en train de retrouver le joueur Neves des jeunes, en fait. Et ouais, là, ça devient vraiment très, très intéressant, en fait.
C'est-à-dire que, tu vois, genre, je me faisais un peu la réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends... Imaginons, il part en janvier dans un club. Eh ben, j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore tout vu de Neves au niveau du jeu, vraiment proprement du jeu offensif, où pour moi il a un volume encore plus considérable et il est en train de montrer un peu dans le délire box-to-box qu'on pouvait lui trouver avant, et je trouve que là il le démonte de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'encore sur ce match, je le mets entre guillemets en top.
Malheureusement, encore une fois, j'aurais pu mettre Trubin parce que s'il ne prend pas ses trois buts à la con, c'est débile un peu de dire ouais, il prend trois buts à la con, mais moi, pour moi, il n'est pas fautif sur les trois, enfin, du moins de ce que je vois. Notamment parce qu'on a enfin un gardien qui sait sortir ses buts. On a un gardien sur à la 46e minute, il te met une passe sur Rafa Odysseas, il n'a pas fait ça en 10 ans. Donc, peut-être que c'est le commun des mortels, mais il y a des trucs que je vois au stade que je n'ai jamais vu au stade auparavant. Peut-être Tino sur les 45 premières minutes parce qu'après la seconde période, je pense que vu que l'équipe a sombré, bah, lui malheureusement il a subi les conséquences, donc c'était beaucoup plus compliqué. Et je sais pas, ouais, Casper, Casper, Tino et Neves. Après le reste, c'était plus compliqué.
On a un commentaire sur, en fait... sur Twitter qui nous dit que, bah, ouais, que même on est très critique envers Jean-Mario parce qu'il a marqué, il y a une sorte d'acharnement sur Jean-Mario parce qu'il met un triplé, il y a ce qui est pareil, là on lui tombe dessus quand même. C'est pas qu'on lui tombe dessus, c'est que triplé certes, et ça personne ne peut le négliger, ça reste une belle performance. Et on ne peut pas dire que c'est un mauvais match après ça. C'est juste en fait, si on prend la globalité de ce qu'il fait en fait depuis le début de saison, qu'un triplé aujourd'hui, ça n'enlève rien le fait que tu dois manger le banc sur le reste des rencontres, quoi.
Ouais, en fait, si tu parles juste de la rencontre, ok, mais un triplé, bon, bah, ça va être peut-être au niveau des stats, un des meilleurs matchs de sa carrière, si ce n'est le meilleur, mais au niveau du jeu, c'est loin d'être un de ses meilleurs matchs, donc on en attend plus. Moi, par exemple, j'ai une occasion où en fait, c'est ce qui m'énerve le plus dans le manque de personnalité. Pourtant, on les a vu les vidéos Benfica TV où le mec dans le vestiaire il parle beaucoup, etc. Mais sur la fin de match, quand il décale une balle sur Otamendi, qu'il la décale sur Morato pour un centre au cinquième poteau, je me dis, mais comment t'as pas un minimum de couilles pour éviter de la décaler à tes deux défenseurs qui ne peuvent absolument rien faire dans les 20 derniers mètres? Juste, tu tentes un truc, quoi. Une frappe, autre chose, mais pas ça.
Philippe, ton avis?
Je suis d'accord. Pareil. En fait, c'est ça, c'est que t'as des gars qui sont censés être leader qui, en fait, peut-être, oui, c'est bien, ils font des discours, mais c'est ça, Grimaldo, c'était pareil. C'est bien beau de faire des discours dans le vestiaire, mais après, faut montrer sur le terrain aussi. Et souvent, c'est des mecs, genre, quand il faut vraiment venir et dar la cara, comme on dit, ils regardent leurs chaussures et au final, c'est les petits qui prennent le relais. Et c'est des mecs comme Jean Neves, comme Antonio Silva, qui viennent parfois parler à la presse. Et qui viennent faire preuve de personnalité, tout simplement.
Je voulais aussi, voilà, tu me lances un peu sur Antonio Silva, sur la charnière centrale, tout simplement, qui est comme très très fébrile cette saison. Otamendi qui est l'ombre de lui-même, hein, c'était un peu ce qu'on redoutait aussi lors de l'été dernier, où tu sens que c'est l'année de trop, voilà, c'est la saison de trop, et là, le penalty. Il est mitigé, le pénalty. Il peut être pas sifflé comme il peut être sifflé, mais il n'a jamais besoin d'intervenir comme ça, surtout quand Antonio Silva, il avait très bien cadré le joueur. Le joueur n'était pas dangereux, il avait un peu déporté. Voilà, il n'avait pas besoin d'intervenir. Il intervient comme ça, comme un débile, alors que le mec, il est champion du monde, il a 35 ans, capitaine. Donc, il y a ce pénalty qui est totalement de la faute d'Otamendi. Et il y a aussi, du coup, le deuxième carton rouge d'Antonio Silva, pour une faute grave. Il y a faute tous les jours, il y a rouge tous les jours, il peut lui briser la cheville, c'est pas maîtrisé, c'est pas... Il y a de l'émotion, mais ça fait beaucoup déjà avec le match contre Salzbourg. On lui avait pardonné contre Salzbourg, où on avait dit que c'était un réflexe, c'est comme ça. Mais là, quand même, ça fait beaucoup déjà, je trouve, même s'il est encore très jeune. Mais même au niveau des performances, je trouve quand même... il a pris un certain standing, un certain statut, et il est beaucoup plus, comment dire, charismatique la saison dernière, mais je le trouve beaucoup moins compétent quand même. Et alors, ça se ressent parce qu'il y a aussi Otamendi qui est plus fébrile, et forcément, quand tu as ton patron qui est fébrile, peut-être que ça se ressent sur toi ensuite, mais la défense centrale quand même n'est pas gage de sérénité, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez?
De toute façon, ça, c'était un des risques qu'on avait évoqué l'année dernière en renouvelant avec Otamendi. Alors certes, tu renouvelais parce que tu avais peut-être encore besoin d'un gars qui soit le patron dans le vestiaire et sur le terrain, et par rapport à son leadership, enfin, ça pouvait se comprendre que tu veuilles le garder. Maintenant, il a son âge et ça se ressent sur le terrain, quoi. Il est un peu en galère cette année, alors que pourtant, avec la sélection, il n'est pas si mauvais. Mais là, tu sens que c'est difficile. Et Antonio Silva, écoute, c'est non seulement déjà, comme tu l'as dit, quand ton patron de la défense et ton compagnon est moins bien, forcément, toi, bah, tu es moins bien, surtout que toute l'équipe est moins bien en vrai. Donc ça peut s'expliquer par ça. Et c'est surtout qu'il a mis le standing tellement haut l'année dernière. C'est un peu comme Ruben Dias quand il est arrivé première saison en première ligue, il est trop trop fort. La deuxième saison, elle est plus compliquée parce que justement, tout le monde s'attend à ce qu'il soit tout le temps au même niveau. Et après, il y a eu une remise en question et là il est beaucoup mieux depuis. Donc, à voir comment Antonio Silva va gérer ce genre de moment. Je ne suis pas super inquiet parce que sa saison n'est pas catastrophique non plus. Hein. Mais c'est ce genre de truc, c'est censé te forger et en espérant qu'il apprenne après avec ce genre de petites erreurs. Ouais. Enfin, petites erreurs qui coûtent cher quand même.
Dani, ton avis?
Bon, moi je veux pareil, un peu à contre-courant par rapport à ce que tu dis, enfin par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu dis, par rapport à Antonio Silva, dans le sens où est-ce qu'il nous a plus bluffé l'année dernière? Ouais, parce qu'on l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Maintenant qu'il nous a montré qu'il pouvait être à ce niveau-là, on s'attend au même niveau, mais je pense que l'année dernière c'est aussi. C'est-à-dire que moi je pense qu'il peut atteindre ce niveau, mais je pense que l'année dernière on était vraiment sur un joueur, mais vraiment à la limite, je vais pas dire parfait, mais qui était compétent contre absolument tout le monde, et excepté son pénalty contre le PSG, le mec, tu trouvais très peu de défauts. Là, je pense qu'il en a plus. Les excès d'engagement, après, il en a. Tu prends les deux rouges qu'il prend, il prend deux rouges sur deux matchs où littéralement l'équipe prend l'eau. Et quand tu vois, quand tu veux des joueurs qui réagissent, qui soient concernés par ce qui se passe par le club, etc., qui sentent le club, bah, malheureusement, c'est parfois les joueurs qui peuvent aussi peut-être perdre plus rapidement les pédales. Parce que moi, honnêtement, le tac qu'il fait. Après, qu'il y en a qui disent rouge ou jaune, j'ai vu des pages même anglaises qui disaient quoi, que c'était que jaune parce que c'était n'importe quoi. Enfin bref, moi, à vitesse réelle, pour moi, c'est rouge. Et moi, c'est au-delà du « ouais, c'est jaune, c'est rouge », c'est juste que ce tac, il n'est pas nécessaire.
Il n'est pas maîtrisé.
C'est-à-dire que le tac, quand il va le mettre, c'est juste ça, en fait. Il n'est pas nécessaire et il le fait pourquoi? Parce qu'en fait, il vient de se prendre le 3-3. Enfin, on est à 3-3. À mon avis, c'est le mec qui… même s'ils font attention à la part émotionnelle, ils essaient de gérer ça au mieux. Ah, c'est quand même les mecs qui sont plus impactés, c'est des mecs comme lui, c'est des mecs comme Gouveia, c'est des mecs comme Neves, c'est moins Morato, c'est moins Otamendi. Otamendi, par exemple, quand lui fait une connerie, ben, je te dirais que les conneries il est capable de délivrer une connerie par match, littéralement. Il peut être plutôt serein et t'apporter ce leadership, et bam, sur les 90 minutes, il t'envoie une spéciale Otamendi où il te donne. Enfin, il te provoque un penalty, ou alors il se fait avaler parce qu'il se jette totalement sur l'attaquant. Et donc lui, par exemple, m'inquiète beaucoup plus qu'un Antonio Silva, où moi, pour moi, il fait une bonne saison. Tu vois, genre là, on analyse après le match contre Estoril où il met un but puis il se sauve sur la ligne. Enfin, c'est pareil. Moi, honnêtement, j'ai pas. Enfin, je me souviens de Ruben Dias, mais j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup plus de matchs références de la part d'Antonio Silva en moins de 2 ans que Ruben Dias chez nous. Et pourtant, Ruben Dias, il a été très très bon. Maintenant, oui, je pense qu'il subit le manque de sérénité parce que tu n'as toujours pas trouvé ta ligne de 4, parce que tu es constamment à la recherche de ta ligne de 4 et que du coup, tu as ton capitaine qui est de moins en moins bon. Et je pense qu'il en subit les conséquences, mais qui maintient quand même un niveau qui est convenable, voire bon. Enfin, même pour moi, il est bon, mais il n'est pas aussi bon que l'année dernière. Pour moi, il peut passer un cap. Et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, il ne devrait pas partir en fin d'année comme Neves. Mais bon, vu qu'on va faire le package et les vendre, ça c'est un autre sujet.
Ouais, clairement, tu sens quand même qu'il a besoin de... Bah, l'année dernière, c'était un peu la surprise. Le fait qu'il débute, donc c'est tout nouveau. C'est forcément, ça vient du Seychelles. Et puis, il n'était pas forcément connu des adversaires aussi non plus. Donc forcément, ça a son avantage. Là, tu sens que c'est quand même l'année de... Bah, c'est la deuxième année, toujours la plus dure. Hein. C'est comme quand tu arrives au pro, en pro, le plus dur n'est pas d'arriver en pro, c'est de confirmer, c'est d'y rester. Et là, il est sur cette deuxième année où il doit confirmer, et là, il est un peu plus en difficulté, selon moi, quand même. Encore une fois, ce n'est pas que de sa faute, parce que celui qui est à côté de lui, celui qui a de l'expérience, son capitaine, celui qui est censé le rassurer, n'est pas bon non plus. Donc forcément, ça se joue sur un gamin de 18-19 ans. Hein. Mais il doit, je pense, comme tu dis, rester une troisième année pour vraiment prendre le lead, en fait, la relève, comme un peu comme a fait Ruben Dias, qui est l'exemple du fait que voilà, il est parti au bout de 3-4 ans, il est parti vraiment au bon moment, après avoir fait le tour du club, etc. Donc à Antonio Silva de rester. Sur Jean Neves, je pense que...
Après, petit aparté sur ce que tu dis, Rubén Dias part à ce moment-là parce qu'on fait une préélimination
et vous êtes fait éliminer,
à Benfica. À Benfica, on fait ça. Sinon, il part pas. Mais là, vu qu'on a fait un truc à Benfica, il fallait qu'il parte et qu'on récupère un chèque, sinon on était
dans la... Il fallait récupérer 60 millions.
Donc, tu vois, ça a été géré un peu en galère aussi.
Et pour rebondir ensuite sur Jean Neves, je pense que lui, par contre, tu vois, bah, déjà, l'année dernière, bon, c'était sur la fin de saison. Donc Paris, c'était un peu la nouveauté, etc. Là, il est sur sa deuxième saison où il doit confirmer. Et je pense qu'il confirme, tu vois. Je pense qu'il confirme et que, pour le coup, lui a pris vraiment la relève du leader du milieu, tu vois, malgré son jeune âge. Tu sens vraiment que c'est le patron et qu'il est devenu le patron du milieu. Et s'il n'est pas là, ce n'est pas du tout la même équipe. Donc, je pense que lui, il y a plus de chances de le voir partir la saison prochaine, malheureusement.
Bah surtout s'il fait l'euro et qu'il
fait un bon euro. Je suis d'accord avec toi. Mais juste par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce qu'on on l'attendait pas l'année dernière à ce niveau-là, tu vois, on attendait limite un Thomas Arojo à ce niveau-là. Et c'est un mec qui, en formation, nous avait montré qu'il était en avance, qu'il était très mature. Antonio Silva prenait beaucoup à ses côtés. J'ai cette image, je ne sais pas si tu l'as aussi, en finale de Youth League, quand Antonio Silva est limite charrie Sesco. Je ne sais pas qu'il le charrie, mais il rentre dans sa tête un peu. Et donc, les gestes d'humeur comme ça d'Antonio Silva, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup vu. Je pense à son tweet après la victoire en Youth League où il se moque un peu de Sesco qui avait fait une remarque par rapport à soit à Benfica, soit je crois que c'était par rapport à Benfica ou un canard du genre. Et Thomas Arojo l'avait déjà recadré deux fois. Donc, pour moi, il lui manque peut-être, une certaine maturité à ce niveau-là au niveau de la gestion de ses émotions. Mais ça s'apprend avec le temps. Et encore une fois, si Thomas Arojo a éprouvé des difficultés et à passer le cap et a dû être prêté, etc. Je ne suis pas inquiet sur le fait qu'Antonio Silva, parfois, ait des manques à ce niveau-là, parce que ce n'était pas forcément évident qu'il soit en avance à ce niveau-là, même si l'année dernière nous a montré le contraire.
Clairement. Phil, tu voulais dire quelque chose ?
Non, mais il me semble que ce n'était pas Sesco, je crois que c'était Simic. Parce que derrière, quand il marque...
Je pense qu'il est en train de faire un caca à Benfica.
Quand il marque le but, Simic, cette année-là, après, à la fin, ils ont repris le tweet... d'Antonio Silva.
Allô.
Ouais. Non, c'est...
Ah, je pense que
vraiment... non, c'est en fait, t'as pas entendu Phil, je pense qu'il y a un problème. T'as pas entendu ce qu'il disait Phil, là ?
Non, ah, j'entendais pas du tout. Si moi, j'entends pas, c'est pas
grave. Non, ouais, je pense qu'il y a dû y avoir un petit problème. Les gars, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ce match ? Je pense pas qu'on fera le bilan de la saison européenne de Benfica, parce qu'il reste encore un match, hein, c'est pas fini. Ça me semble très compliqué, mais il reste encore un match. On fera le bilan après le match contre Salzbourg.
Il va être rapide, le bilan.
Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à compléter par rapport à ce match-là, avant de passer à Braga ?
Non, je crois qu'on a fait le tour, hein.
Juste que peut-être on sait pas, hein, peut-être l'équipe elle pensait que c'était que 45 minutes un match, donc on va peut-être leur laisser le bénéfice du doute. On verra si contre Salzbourg ils comprennent que c'est 90 minutes et qu'on peut peut-être aller avoir un petit espoir, faire quelque chose en Europa League, donc faire une grosse pression en Autriche qui pour moi va être très compliquée. Et si ça se passe bien, croisons les doigts pour qu'on réajuste un peu la saison européenne en faisant quelque chose de sympa en Europa League. Mais pour moi, c'est utopique. Il fallait gagner ce match avant tout. Quand tu sors la calculatrice, c'est jamais bon, surtout chez nous.
Après, c'est bien, ça vous permettra de jouer une fois par semaine. La priorité, c'est le championnat. Donc,
Ouais. En Coupe de la Ligue, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. Donc peut-être qu'on va mettre toutes les forces sur ça aussi.
C'est bien, parce que la Coupe du Portugal, ça va être compliqué. Un jeu des équipes de Ligue des Champions.
Parlons justement de cette confrontation. Vous avez affronté Braga.
J'ai vu ça. Oh là,
et cette passe décisive, putain, merci. Je ne pouvais que la réceptionner. Donc, Benfica, en gros, il m'a dit comme quoi vous allez affronter une équipe de Ligue des Champions lors de la Coupe du Portugal. Et là, il me lance forcément sur Braga parce qu'il y aura un Benfica-Braga en Coupe du Portugal. Et on va évoquer Braga, Mathieu, qui a fait match nul contre Union. Donc, j'ai pas vu le match personnellement. Donc, je pense que tu vas nous expliquer tout ça. J'ai juste vu que notre ami Niakate avait encore pris un rouge et qui avait donc brisé les espérances de Braga, mais que Braga a su bien réagir malgré ce rouge et ce but encaissé.
Oui, cinquième rouge depuis que Niakate est à Braga. 50 matchs aujourd'hui, donc ça fait un rouge tous les 10 matchs quand même.
Ça fait beaucoup.
Donc ça fait beaucoup. C'est un garçon que j'aime beaucoup, qui globalement était un peu en plus bien meilleur sur les derniers matchs, à l'image aussi des prestations de José Fonte, hein, qui sont les meilleurs depuis 4-5 matchs. Donc on sentait un regain de forme à la fois de leur niveau et aussi un point de vue de l'équipe, d'un point de vue compétitif. Et aujourd'hui, c'est vrai que je dis pas qu'on perd quand même beaucoup de chances de gagner ce match, alors qu'on aurait, on aurait pu le gagner à 10, parce qu'on fait un très très bon match à 10, et c'est l'un des choses, l'une des choses, parce qu'on avait déjà joué à 10 contre 11 il y a quelques semaines, toi, ça, j'ai lu Saint, et je me suis avoir une discussion quelques jours avant en disant que ce club est incapable de jouer à 10 contre 11, et sur les deux matchs suivants, sur deux rouges de Yakaté, l'équipe a très bien réagi, mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de frustration aujourd'hui parce que les 30 minutes avant le rouge de Nikaté, t'es largement au-dessus, en fait. T'es largement au-dessus, t'as le contrôle, tu pratiques un peu le jeu que tu pratiques dans tes meilleurs jours de championnat, tu le pratiquais aujourd'hui avec deux énormes occasions créées dans ces 30 minutes de jeu avec un Roussillon qui sauve un blanc sur la ligne sur les 3 de Simon Manza et la tête de Diallo qui rafle le poteau. Donc, on était sur une bonne ligne. Et ensuite, il y a ce rouge qui enchaîne en plus avec le but de Robin Gosens sur une paire de balles bêtes. Et on a un Braga qui voit un peu les limites, ses espoirs de Ligue Europa seulement, on sent un peu s'envoler. Quoi. Et ensuite, on y a une deuxième mi-temps de très 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 bonne facture. Un début de deuxième mi-temps excellent avec ce but d'Alvaro Diallo, l'homme en forme encore, servi par Ricardo Horta qui a sorti un très beau match. Et ensuite, juste après, dans les deux, trois occasions qui auraient pu, une qui je trouvais est énorme de la part d'Horta, qui aurait pu amener ce deuxième but et cet espoir de victoire sur ce match. Donc, c'est un moindre mal de gratter ce match nul face à une équipe de Lyon Berlin qui, on le sait, est une équipe qui, je crois, n'a pas gagné sur ses 16 derniers matchs.
Ça te laisse envie, en fait, ce point de match nul te permet d'aller à Naples et.
Permet d'aller à Naples, mais après,
d'avoir du temps entre tes mains,
ouais. Mais il faut gagner potentiellement avec deux buts d'écart à Naples. Donc, je sais que ça va être dur. On va espérer quand même juste ne pas choquer et de rester avec au moins cette troisième place pour continuer en Europe après mois de février prochain. Mais oui, on est sur beaucoup de frustration parce que c'est même. Oui, si j'allais dire, si tu en Europa League, d'avoir ce scénario, ok, bon, tu le prends, mais en Ligue des Champions, t'as quand même envie de gagner les matchs. C'était bien sûr l'un des deuxièmes matchs les plus abordables au niveau de ton groupe. Donc après 33 minutes, tu dis que tu peux vraiment faire beaucoup mieux et t'aurais pu faire vraiment beaucoup mieux. Et c'est malheureusement, il faut le dire, c'est la faute d'un joueur qui est encore pas concentré et qui fait une faute absolument grossière sur Robin Knoche. Donc c'est dommage, c'est un peu de frustration. Ça ne m'inquiète pas parce que ça traduit un peu quand même les bonnes dernières performances de l'équipe à la fois en championnat et en coupe. Donc c'est si on prend que la performance, ça reste très positif même. Mais d'un point de vue comptable, c'est bien évidemment dommage de ne pas avoir réussi à gagner ce deuxième match en Ligue des Champions cette saison.
J'ai cru comprendre qu'il y a eu un petit fait de jeu à la fin du match, c'est ça ?
Pas à la fin du match, non, c'est à la fin de la première mi-temps. La première mi-temps, parce que j'étais bien évidemment, monsieur Clément Turpin doit venir me faire chier en Europe. Il ne peut pas rester en Ligue 1, lui. Il y a une main. Après, c'est l'avis de beaucoup de gens, c'est aussi mon avis que la main est sur une frappe de Serdar sur un corner de Diogo Leite est assez évidente, mais lui ne la voit pas, l'arbitre du VAR ne la voit pas. Quand tu vois la main qui était sifflée au PSG hier, tu te dis quand même qu'il y a quand même un problème de cohérence entre les arbitres en Europe, parce que là, c'est vraiment un fait de jeu. Bon, après, d'un point de vue du scénario, ça aurait peut-être été un peu mieux d'avoir égalisé juste avant la mi-temps, mais tu égalises juste après la mi-temps aussi. Donc, c'est pas le scénario qui. C'est pas le fait de jeu qui te change pour moi finalement avec le cours du match qui te change tout, mais oui c'est un peu frustrant parce que t'as cette action là, t'as quand même, je trouve, enfin, ça reste mon avis, hein, mais t'as deux pénaltys sur le match aller face au Real, sur le match retour face au Real qui peuvent être sifflés aussi et qui ne le sont pas, donc c'est un peu dommage d'avoir un peu ces faits de jeu contre toi sur ces derniers matchs de Ligue des Champions.
Au niveau des individualités, Diallo a marqué son deuxième but de la saison. C'est clairement l'homme fort de votre côté. Il réalise une saison quand même assez exceptionnelle. Est-ce que son but résume un peu sa prestation ou c'est juste une ligne dans une stats? Et si tu as d'autres individualités à ressortir, qu'est-ce que tu peux ressortir comme individualité?
Non, autant le but qu'il met la semaine dernière, oui, samedi face à Portimulien, ce magnifique enroulé de très loin. Et voilà, tu vois un peu le côté un peu humide sur une stade, parce que je trouve que l'équipe a beaucoup construit à gauche sur ce match face à Portimulien, et l'a un peu délaissé à droite. Il a eu moins de possibilités de se mettre en valeur. Autant aujourd'hui, il y a son but qui est beau, et il y a vraiment une prestation que je trouve est plus complète, qui est de percussion. C'est à 10 contre 11 en début de deuxième temps. En plus, son but, c'est l'un des seuls, parce qu'il n'y avait pas Bruma, qui était vraiment capable de porter le ballon dans ce dernier tiers, et d'avoir toujours cette volonté de faire mal en fait par ses courses, balle au pied, par le dribble, et par certaines décisions, par certaines passes aussi, notamment sur les quarts d'heure à l'opposé, sur ces deux, trois situations après son égalisation. Donc non, il fait un bon match aujourd'hui, et ça résume vraiment sa très bonne deuxième, pardon, sa très, son très bon, très bon début de saison, parce qu'il est déjà à 12 buts, on n'est pas en décembre, donc c'est rare enfin, d'avoir ce genre de stats. Banzai est à 10 buts en championnat, donc c'est aussi des stats à mettre en valeur, mais il fait un très 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 bon début de saison, et il est le meilleur joueur. Est-ce que c'est le joueur le plus important? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'un des tout meilleurs joueurs de l'équipe par ses prestations et par ses stats, à la fois de but et de passe décisive depuis le début de la saison. Et sinon, Mathieu, dans ton autre individualité, c'est vrai que tu me poses la question. Il y a un José Fonté qui, je trouve, fait encore un bon match. Alors,
ah oui, bien sûr.
Okay. Ouais, non, mais il est très correct, mais c'est ça un peu mon problème avec cette saison en fait, c'est que il est correct, il est bon, il fait plus d'erreurs. Bon, il a failli abortir la semaine dernière, il a failli faire une grosse erreur, ce qui est dommage, parce que ça ternit des prestations qui sont meilleures, même balle au pied, je trouve que c'est meilleur. Mais voilà, c'est un peu le problème, c'est que quand tu vends Tormenas l'été dernier, tu t'attends à avoir pas juste un joueur qui soit capable d'être aussi bon et qui t'apporte juste un peu plus d'expérience. T'attendais d'avoir un joueur, voilà, en défenseur central droit qui soit capable d'être le complément de Niakate, qui soit capable d'être, avoir aussi cette côté d'expérience pour pouvoir être ce joueur auquel Niakate pouvait se reposer plus que Tormena, et de t'apporter un vrai plus d'un point de vue du niveau de cette charnière centrale, même si, alors que Tormena pourtant était sur une bonne fin de saison, une très bonne fin de saison dernière. Voilà, mais sinon c'est correct, et sinon André Carborta a fait un très bon match, je trouve, dans ce jeu classique de recevoir le ballon et de le distribuer, de prendre des bonnes décisions et de faire la différence, et malheureusement sur en Ligue des Champions la mire est un peu déréglée. Il n'a pas encore marqué en Ligue des Champions, il a eu deux énormes occasions, une aujourd'hui, une face à l'aller, et je pense qu'il était un peu frustré par rapport à ça, mais d'un point de vue du jeu et d'un point de sa belle passe décisive aussi sur Diallo, bon temps de réaction, il fait un bon match, sans parler de Jean Moutinho, je suis heureux de faire partie du club des gens qui ont eu Jean Moutinho dans leur équipe, parce que ça change la vie, ça change, c'est quand tu l'as avec toi, tu te rends
c'est que tu comprends, je pense, c'est que tu comprends ouais, que ce qu'il va.
Tu vas en prendre en sélection, mais en sélection ça marche tous les 3 mois, mais et même en sélection, même avec Macarena, tous les 3 mois, ça a toujours été très fort et très régulier, mais quand il est en club, ouais, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est autant j'étais un peu sceptique, pas tant par rapport à la qualité du joueur, mais par rapport un peu à l'empilement des profils au milieu de terrain, parce que voilà, t'as Vitor Caraglio qui sort de très bonnes 30 premiers temps encore aujourd'hui, qui doit sortir à cause du rouge, mais qui était censé être le vrai remplaçant d'Almosrati, et te rends compte que João Moutinho l'est envolé par sa capacité de décision et de contrôle du milieu de terrain, balle au pied, et t'as encore André Horta et Rodrigo Salazar à côté, donc ça c'était peut-être mon inquiétude, mais finalement on en pile, c'est pas grave, hein, de toute façon l'équipe est compétitive, et là t'avais pas Almosrati qui était blessé, et t'as réussi à un remplaçant de très très haut niveau pour ton contrôle au milieu de terrain, donc belle pioche, merci à Sergio, au Conceição, et voilà, très très content de l'avoir dans l'équipe.
Surtout en plus, c'est un garçon, tu sais, c'est ce genre de joueur qui te soulage en fait, où tu sais qu'ils vont avoir le ballon et que généralement ils vont pas te le perdre, quoi, dans n'importe quelle situation, que ce soit sous pression ou pas, que ce soit voilà, que c'est un joueur qui ne perd pas de ballon tout simplement, et alors je comprends, j'ai du mal à, enfin, pour le spectateur lambda tu vois qu'il fait pas mal de passes latérales, etc. Donc ouais, ça casse pas forcément des lignes, etc. Mais en fait, c'est tellement soulageant d'avoir un joueur qui conserve la possession et qui ne perd pas de ballon, en fait. Alors, et qui peut te casser des lignes de temps à autre. Donc c'est vraiment le joueur qui te soulage, en fait, dans une équipe. Et en tant que supporter, surtout, tu sais qu'il va pas perdre de ballon, quoi. Ah, Mathieu qui... Hop là. C'est bon, Mathieu, je m'entends. Ouais, c'est bon.
Ouais, est-ce que tu m'entends?
Ouais, c'est bon, attends, je t'entends.
J'étais perdu les 5-10 secondes de ton intervention, mais je crois que j'ai encore avoir saisi sur Jean Moutinho. Et c'est vrai que c'est même plus, sur le côté passe latéral, je trouve que c'est un bon point, parce que c'est un joueur qui, des fois, c'est juste, l'homme libre se trouve sur la largeur, et il est capable de le trouver, alors que parfois, il est dans des situations sur un côté un peu compliqué, il arrive à se retourner, il arrive à prendre tout le temps possible et à chercher un joueur. Alors, c'est une passe latérale qui n'est pas considérée comme une passe progressive, mais qui va trouver le latéral opposé ou un milieu de terrain qui va ensuite trouver le latéral opposé. Et ça te fait un bien fou. Donc, non, bon, après, c'est toujours bien ouais, de jouer au Moutinho, mais il a fait un super, c'est pas son meilleur match de la saison, mais encore une fois, c'est un match du. Il fait jamais de mauvais match, quoi, depuis qu'il a Braga. C'est toujours soit très bon, soit suffisamment bon pour faire des différences sur le terrain. Et parler d'une autre prestation, je pense que ça peut étonner ceux qui vont nous écouter, mais Christian Borja est à un niveau excellent.
Contre le Real, déjà, c'était pas mal. Hein.
Déjà contre le Real, déjà depuis qu'il est titulaire, je pense que ça sont prêts à l'Alana Sport de Francesco Farioli, il a fait beaucoup de bien. Et de le retrouver un poste aussi, je pense qu'il est son poste, hein, qui est le poste de latéral, hein, qui n'est pas celui de piston, parce que c'est pas forcément un joueur qui aime attaquer la profondeur de très loin, ou c'est pas non plus celui de central gauche, parce qu'il a du mal à défendre et qu'il a besoin de défendre plus sur son côté et utiliser un peu plus ses qualités physiques pour compenser certaines lacunes. Du positionnement, mais avec ballon, je trouve que c'est un garçon qui est un peu libéré, qui arrive à porter, à dribbler quand il est sous pression, à trouver certaines passes intérieures et à prendre certains risques aussi dans les transmissions. Donc c'est un joueur qu'on aurait pu s'attendre à avoir une vraie lacune sur le côté gauche, et finalement c'est un joueur qui apporte des garanties. Tu penses pas forcément au poste de latéral gauche comme lacune de Braga, donc c'est positif, et je voulais le dire aujourd'hui parce qu'il a beaucoup pris au Portugal, à raison parfois, même si sûrement aussi parce qu'il a été utilisé dans des conditions un peu qui n'étaient pas propices à son développement. Mais aujourd'hui, voilà, il est là et il est convoqué en sélection colombienne 4 ans après. Donc c'est un beau succès de la part du staff d'avoir réussi à récupérer ce niveau de la part de Borja et de l'avoir envoyé en sélection, colombienne.
Je pense qu'il faudra faire un podcast sur le nombre de joueurs que Braga a ressuscité en cas d'Horta.
Venant du Sporting.
Boum, Borja. Comment ?
Venant du Sporting, surtout. C'est Wilson Edwards.
Ishgayo. Non, c'est...
Le cas Ishgayo, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'ils l'ont ressuscité, ils l'ont retué quand il est
parti à Sporting. Ils sont très forts, hein, quoi.
C'est vrai que cette capacité à ressusciter des joueurs du côté de Braga, c'est... après t'as le contexte, hein, comme on dit souvent, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. C'est vrai que le contexte Braga quand même permet de jouer assez librement, tout en ayant une pression quand même, parce qu'il y a quand même des supporters et assez nombreux sur les gros matchs. Mais c'est vrai que t'as beaucoup moins de pression que sur certains clubs, lors de certains clubs, et t'as vraiment cette capacité de tu peux jouer ton football tranquillement, quoi. Et c'est que c'est un contexte idéal pour jouer au foot, quoi.
D'accord.
Mathieu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Alors, pas de bilan, hein, parce qu'encore une fois, comme avec Benfica, le bilan sera lors du dernier match, parce qu'il y a encore de l'enjeu. Et quel enjeu encore? Il y a une deuxième place à aller chercher, ou une troisième place à minima. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur ce match? Et on fera un bilan de la compétition dans 15 jours.
Oui, non, pas de bilan tout de suite, parce que le dernier match peut être... Enfin, le dernier match, il y a tous les scénarios possibles, hein. C'est donc juste pour parler de ce dernier match, mais ouais, si tu gagnes Naples avec 2-1, donc ça va être dur, hein. Tu peux encore espérer finir deuxième. Soit tu finis deuxième si tu atteins ce résultat. Si tu fais match nul, t'es en Europa League. Si tu perds mais que l'Union de Berlin ne gagne pas à Madrid, t'es en Europa League. Mais attention, parce que le Real est déjà qualifié, donc attention à l'équipe qui peuvent mettre, même si bon, c'est les champions qui ne l'apprennent jamais, même si je pense qu'ils sont qualifiés, bon, ils vont pas prendre ça à la légère, enfin, j'espère. Et donc ouais, tu peux être deuxième comme tu peux être dernier encore Moi, j'aurais pensé que le scénario quand même le plus probable sera la troisième place. Mais malgré tous ces scénarios, je trouve que Braga fait une belle Ligue des Champions, on en parlera dans 15 jours, et que voilà, que ce match-là est vraiment frustrant, parce que c'est pas l'Europa League, tu sens manquer de respect à l'Europa League, mais gagner un match avec des champions, c'est quelque chose. On l'a vécu à l'aller à Berlin, et aujourd'hui il y avait quand même la matière pour ne pas avoir cette petite frustration et gagner cette rencontre face à l'équipe de l'Union de Berlin qui se voyait était quand même en grande difficulté aujourd'hui.
En plus, je crois que vous mettez fin à leur série de 13 défaites de suite, non?
Non, parce qu'ils ont fait match le week-end dernier.
Ouais, ok.
Donc
ça va.
ça va, oui.
Merci les gars, merci pour ce space. Merci à nos auditeurs d'avoir été si nombreux, d'avoir réagi. On se retrouve la semaine prochaine pour les retours des lives. C'est le retour, cette fois, de la Liga Portugal. Je ne sais même plus si c'est Bwin, Betclic, ça change tous les 6 mois. Donc je vais dire Liga Portugal. Donc on se retrouve très bientôt. Merci à tous et passez tous une bonne nuit parce que j'ai déjà minuit 22. Donc bonne nuit et à très bientôt. Ciao ciao.
Ciao ciao.